Vous écoutez
RMC.
RMC. L'Afterfoot.
Nicolas Jamain.
Avec Daniel Riolo, avec Lionel Charbonnier et avec Willy Sagnol. On est ensemble jusqu'à minuit. Bien sûr, tout à l'heure, on parlera de Deschamps, de Lille également dans quelques instants avec Gibo, bien sûr. Mais j'accueille d'abord Fred Hermel. Bonsoir, Fredo.
Chicos.
Refais-le-moi parce qu'on n'a pas le
salut, Fredo. Hola.
Ah, hola, chicos.
Voilà. Tout va bien dans ton patio? J'ai dévoilé un truc que je devais pas dire, non, peut-être, non? T'as un grand appartement avec un jardin dans Madrid.
Non, enfin non, c'est que je loue une petite maison depuis 6 ans à Madrid et j'ai un petit patio, oui. Et il y a le jasmin qui arrive malgré le mauvais temps. Donc c'est j'aurais honte de me plaindre, hein, franchement.
C'est vrai qu'on dit, on dit pas
d'ailleurs, je me plains jamais. Oui, mais sauf qu'on dit
ça
un patio.
Ça dépend à quelle heure.
Mais bon, vous êtes passionnants, les amis. Je vous écoutais avec beaucoup
d'intérêt. Vas-y, après on parlera de la situation en Espagne.
Ouais, parce que vraiment, c'est vraiment bien de vous écouter, parce que vous avez raison. L'autre soir, dans l'after, je donnais de mémoire le chiffre que représentait, au niveau de points du PIB, donc du produit intérieur brut.
Ah, arrête, je sens que tu vas être indécent. Tu vas être indécent, ouais, tu vas froisser les gens.
Je sais.
Tu vas froisser tes amis Podemos.
C'est pas mes amis, je veux te dire. Et de moins en moins après la gestion qu'ils sont en train de faire de la crise. Je ferme la parenthèse. En fait, de mémoire, je disais que le foot espagnol représente 1,3 points. C'est même plus, c'est 1,337. C'est-à-dire, c'est presque 1,4 points de PIB par an. Le football espagnol professionnel génère 16 milliards d'euros. Donc, arrêtons. Je suis tout à fait de parler des riches. Mais non, mais le problème, c'est que les joueurs ne représentent quasiment rien là-dedans. C'est les joueurs, ce n'est qu'une petite partie du football professionnel. Le nombre de gens qui vivent grâce au football, mais c'est pas les footballeurs, c'est surtout les autres.
Le mec qui vend la merguez dans le stade.
Mais oui. Mais moi, il y a des gens que je salue tout le temps quand j'arrive à Bernabéu, qui vendent leurs écharpes, etc.
Bien sûr, qui vendent des bonbons.
Le football génère une économie globale monstrueuse.
C'est 16 milliards d'euros en Espagne, 1,37 points de produit intérieur brut.
Et c'est pas que ça, finalement. Là, on parle d'argent, on parle de considération. Non, mais t'as raison, c'est des emplois.
Mais tu pourrais également parler du plaisir et du bonheur.
Exactement,
que ça donne
du rapport.
Tu pourrais parler du rapport culturel aussi.
De
ce que ça procure entre les gens, bien sûr, tu as raison.
Et en plus, le truc aussi, c'est que le football, par exemple, on sait très bien qu'en Espagne, ça génère du tourisme aussi. Il y a des gens qui viennent en Espagne, qui vont à l'hôtel, qui vont dans les restos, qui viennent de l'autre bout de la terre pour voir un match du Real Madrid.
Je discutais récemment avec une voisine qui me disait effectivement que en cadeau d'anniversaire pour son fils, elle voulait l'emmener au Camp Nou il y a une semaine, je crois, pour son anniversaire, week-end à Barcelone, et effectivement, c'est mort.
Voilà, et un auditeur de l'After me posait la question sur Twitter, parce que je pense qu'il voulait offrir un week-end pareil à son fils, je crois que c'était à Séville, etc. Est-ce que tu penses qu'au mois de juin, et tout ça. Donc il faut arrêter de penser football uniquement par le prisme des joueurs et surtout des stars qui gagnent beaucoup d'argent. Parce que le football, c'est beaucoup plus que ça. Je ferme la parenthèse
Elle était belle et efficace.
Fred, merci. Bon, c'est un peu le feu.
Ce confinement commence à me faire peur parce que.
Fred, c'est un peu le feu en Espagne depuis que un certain Luis Rubiales, je me rappelle, patron de la Fédération Espagnole. Pourquoi tu souffles?
Non, parce qu'il est insupportable.
Ok, c'est ton avis. Il propose, en cas de non-reprise du championnat, lui, de figer les positions au classement. Tu vois, voilà. Le Real deuxième.
Non, c'est pas le champion. C'est les places européennes. Il n'y a pas de titre. C'est uniquement les gens qu'ils envoient en Europe.
Le Barça, le Real,
il anticipe s'il faut répondre à la demande de l'UEFA qui demandera les inscriptions.
En tout cas, cette position-là n'a pas plu, Fred, à des clubs et surtout au patron de la Ligue, Javier Tebas.
Oui, mais surtout que, premièrement, Luis Rubiales, on se demande pourquoi il dit ça, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et que. On pense ici, je dis pour l'instant, que la Liga pourra se jouer cet été. En tout cas, c'est ce qu'espère l'UEFA aussi. Et que, bien entendu, Luis Rubiales fait cette déclaration uniquement pour des intérêts politiques, pour qu'on parle de lui et pour de nouveau attaquer Tebas, qui est le président de la Ligue. Et surtout, s'arroger un droit qu'il n'a pas d'un point de vue des statuts du sport espagnol. C'est-à-dire que c'est la Liga qui organise, les statuts de la Liga le disent bien, qui est responsable du championnat, en collaboration avec la fédération. Je crois que même le mot, c'est en bon entendement de la fédération. Donc, en fait.
C'est pas une délégation de pouvoir?
Non. C'est en fait la Liga, par exemple, organise la compétition, mais par exemple les arbitres dépendent de la fédération. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une collaboration.
La question, c'est qui décide à la fin, qui décide de reprendre ou pas le championnat, de figer ou pas les positions au classement.
De toute façon, c'est simple, c'est l'État. Ça sera l'État.
C'est l'État déjà.
C'est l'État et après c'est la Liga. Voilà, donc c'est simple. Mais le truc, ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens ont réagi hier. Donc c'est pourquoi c'est important de démentir un peu. Non, il n'y a pas de plan en Espagne d'arrêter la Liga. Personne ne sait. Et non, les places européennes n'ont pas été décidées. Parce que la personne qui a fait cette déclaration hier n'a pas le droit de le faire. En plus, ça pose un problème énorme. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si on prend le classement figé tel que le propose le président de la fédération... Ça veut dire qu'une équipe comme l'Atlético de Madrid, déjà, elle n'est pas en Ligue des Champions. Mais si vous prenez le classement, pour expliquer un peu le casse-tête que ça représenterait, les quatre premiers en Espagne vont en Ligue des Champions. La Real Sociedad est quatrième avec 46 points. Getafe qui est cinquième avec 46 points. Et donc, Getafe ne va pas en Ligue des Champions, va en Ligue Europa, et la Real Sociedad va en Ligue des Champions. Pourquoi la Real Sociedad est de plus haut classement ? Parce que la Real Sociedad a une meilleure différence de but globale. Sauf que la règle espagnole, c'est que la différence de but soit particulière. Mais une fois que les deux matchs ont été joués, là, il n'y a qu'un match qui a été joué. Mais le pire, c'est que Getafe a gagné contre la Real Sociedad. Non, mais voyez le truc. Enfin, c'est donc Tebas, il a plus beaucoup de cheveux, mais enfin, il s'arrachait les cheveux en disant. Mais pourquoi il y a un truc très important, c'est que. Et c'est triste pour le football espagnol qui est cette guerre. C'est une petite guéguerre qui existe depuis des années et qui continue entre la Ligue et la Fédération. Mais donc, simplement, moi, je veux simplement démentir le fait que ce soit arrêté. Non, rien n'est arrêté en Espagne. Et en plus, c'est le cas partout, mais ce qui a beaucoup été évoqué ici, c'est que s'il n'y a pas un véritable accord entre tous les clubs, la Liga, les joueurs et la Fédération, mais on ouvre la porte à des procès derrière. Parce que vous imaginez ce que ça représente pour Getafe de jouer en Ligue des Champions au niveau des droits.
La perte, c'est terrible.
Getafe, c'est un club qui change de dimension s'il se qualifie pour la première fois de sa vie en Ligue des Champions. Ça change de dimension, c'est autre chose. C'est un petit club qui devient club moyen. Et donc, on se retrouve aujourd'hui dans une situation totalement ubuesque, avec en plus un président de la fédération qui fait de l'idéologie et qui est pas du tout dans le pragmatisme et dans la recherche d'une solution.
Et Fred, est-ce que l'État déjà s'est prononcé sur une pseudo date de déconfinement en Espagne?
Non,
rien du tout.
Ça n'a pas été fait comme ici où on a évoqué le 12 juin, tout ça.
Ouais, et même pour le déconfinement, on en a encore pour 10 jours. On sait que ça va être prolongé, mais il n'y a pas comme l'a fait le président de la République française en annonçant le 11 mai avec une perspective. Là, en Espagne, on n'a pas encore de perspective. Mais c'est-à-dire que la situation sanitaire ici, elle est tellement horrible que on ne sait vraiment pas ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Donc c'est la raison pour laquelle c'est un peu
plus les jours passent, plus ce sera compliqué d'organiser la fin du championnat, Fred.
Oui, mais il y a encore du temps quand même. C'est-à-dire que en Espagne aussi. Enfin, je veux dire la c'est pourquoi. Enfin, je veux dire rien.
Il reste 9 journées.
11.
Oh.
En journée.
Ouais.
En journée.
Ouais, c'est un gros tiers.
Ouais, c'est compliqué, hein. Mais pour l'instant, ça reste encore possible de le faire. Et voilà, bien entendu, Tebas, lui, il estime, parce que il a beaucoup de défauts, mais c'est un pragmatique. C'est 1 milliard de pertes pour l'ensemble du foot espagnol si le championnat ne se termine pas.
Dis-moi, Fred, c'est ce que les joueurs en pensent aussi, parce que voilà, en France, on commence à savoir doucement ce que les joueurs veulent ou ressentent dans cette crise.
Bah en fait, il y a une sorte de syndicat des joueurs qui s'appelle l'AFE, qui n'a pas vraiment beaucoup de pouvoir avec un président. En fait, en général, on est président de l'AFE pour essayer d'avoir un autre poste et de se faire connaître. Luis Rubiales est devenu président de la fédération après avoir été président de l'association des joueurs.
Ouais,
pour l'instant, mais surtout, le gros problème, c'est qu'il y a des disparités.
J'aime beaucoup l'expression.
Non, mais c'est vrai. Hein. Il y a des disparités énormes entre les clubs.
Entre un strapontin, Daniel.
Pardon ?
T'as jamais été assis sur un strapontin ? T'as déjà connu un strapontin dans ta carrière ?
Bien sûr, théâtre, oui, quand même, au théâtre, mais t'es pas très très bien installé.
C'est quand on était petit, ça. Ça n'existe plus dans les théâtres.
Si, bien sûr que si.
Il y en a encore au théâtre.
Bien sûr que oui,
il y en a
encore plein. Au théâtre, à l'opéra, bien sûr, t'as les strapontins.
Ah ouais, parce qu'en Espagne, il n'y en a plus.
T'as une fesse dans le vide, une fesse sur le strapontin, quoi. Ouais. Mettez là, et ça t'a coûté 20 euros au lieu de 140. Pas mal.
Tu vois rien.
Alors, en Espagne, t'as des grosses fesses, toi ?
Non, j'ai jamais dit ça. Excuse-moi, Fred, vas-y, finis.
Non, mais surtout par rapport aux joueurs, c'est-à-dire qu'il y a des disparités énormes entre ceux qui ont perdu 10% de leur salaire, comme le Real. Et je me suis planté l'autre jour, c'est bien 70% du salaire qu'ont perdu les joueurs du Barça. Je m'étais trompé par rapport au niveau de remboursement. Enfin bref, c'est autre chose. Donc il y a des disparités énormes entre les clubs. Il y a aussi des clubs, et ça c'est un point qui peut être intéressant. Le président de Retafe dit, vous savez, il y a des clubs espagnols comme le Barça, comme l'Atlético, comme Séville, qui sont passés au chômage partiel. Donc l'État prend une partie du salaire des employés. Alors, il y a un plafond de 2000 euros. Hein. L'État espagnol ne paye pas les 100 millions de Messi. Hein. On est d'accord. Mais la réflexion, et ça, je ne sais pas si on a salué pour pouvoir en discuter.
Ouais, vite, vas-y, frère.
Vite, mais le président de Retafe a fait une réflexion aujourd'hui très intéressante en disant... Mais moi, mon club, l'État ne, moi, je n'ai pas déclaré de chômage partiel. Moi, je ne demande pas de l'argent à l'État. Comment ces clubs-là vont justifier les recrutements après, alors qu'il y aurait de l'argent d'État qui est venu dans leur budget ? Voilà, c'est une vraie réflexion philosophique hein, et économique derrière.
Là, c'est parce très philosophique ce qu'on vit là.
Ouais, mais vraiment parce
globalement.
Que là, mais globalement, au nom de quoi l'Atlético va dépenser de l'argent pour acheter un joueur ? Alors que l'État a payé une partie des revenus, des salaires pendant plusieurs mois. Alors que Retafe et le Real n'ont rien demandé.
Ouais, non, mais c'est
intéressant.
C'est vraiment.
T'as raison. Il y a sûrement beaucoup de démarches devant la justice, peut-être hein, dans les prochains mois en Espagne, et pas que d'ailleurs.
Est-ce qu'on ne pourra pas demander à un moment au club de rembourser ça? Enfin, je veux dire parce que et vous savez, et là où Tebas est plus intelligent que les autres, lui, il avait recommander à tous les clubs de faire un chômage partiel, justement, pour éviter cette disparité
par rapport à l'aide de l'État.
Mais il y a des clubs qui, philosophiquement, comme le Real, comme Retafe, comme 80% des clubs espagnols,
ne veulent pas, estimant
que c'est pas l'État de payer une partie des salaires et que c'est à eux de faire des sacrifices.
Mais voilà, Fred, c'était hyper intéressant, Fred.
Ben non, mais c'est vrai que vous m'avez inspiré parce que votre débat avant mon intervention était brillant. Bon, mais ça serait bien quand même que le foot revienne, qu'on s'engueule de nouveau là, parce que je trouve qu'on
on est un peu trop d'accord.
Arrête avec ton foot espagnol là, c'est le foot anglais le meilleur, on le sait.
Ouais, mais tu vois, tu vois, c'est pas naturel, ça nous vient pas.
Merci Fred, excellent soir.
Très vite.
La parole sage ce soir, elle est venue d'un homme, qui a joué en Allemagne. L'important, Willy, c'est quoi? Écoutez.
Qui disent combien ils donnent, qui disent pas combien ils donnent, c'est pas grave. Le plus important, c'est de donner.
De donner, Willy. Hein, la générosité selon Willy.
Alors c'est juste par rapport aux joueurs qu'on a dit voilà, ils veulent pas rendre un peu d'argent, ils veulent pas pour les salaires moins, mais il y a pas que des milliardaires dans le football, il y a des joueurs qui gagnent pas beaucoup aussi, et juste mets-toi à la place d'un joueur qui demain par exemple divorce et doit payer des traites et qu'il est un petit peu court. Pour des mecs qui gagnent beaucoup moins de la Ligue 2 ou bas de Ligue 1.
Bien sûr.
Tu crois que s'ils vont demander au club d'avoir une augmentation, tu crois que les clubs vont les donner ? Non. Alors je comprends parfois aussi que les joueurs sont un peu réticents pour certaines choses. Voilà.
Ça dépend quel joueur et de quel salaire également.
Exactement.
Voilà, il faut aussi qu'ils comprennent certains, les plus gros salaires, qui doivent sauver leur économie également.
Ah ils le savent, t'inquiète pas.
Voilà pour le sujet. Dans un instant, Jean Baumel sera avec nous pour parler du LOSC, comment le LOSC vit la crise. Plutôt sereinement. Économiquement, en tout cas, on en parle avec lui. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot. Nicolas Jamain.
Daniel Riolo, Willy Sagnol, Lionel Charbonnier, ensemble jusqu'à minuit. Bien sûr, on parlera tout à l'heure, on va débriefer l'interview du sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps. Mais d'abord, j'accueille Simone Rovera. Ciao, Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Ciao, Simone.
Salut, Simone.
Ciao, Simone.
Tout va bien, Simone?
Ouais, tout.
Pas trop long?
Tout se passe bien. Tout se passe bien, on ne dort pas beaucoup, mais
moins mal.
Bien.
Moins mal, voilà. C'est ça.
Dis-moi, comment s'organise en Italie? Est-ce qu'il y a des dates avancées? C'est Lionel qui posait la question sur l'Angleterre notamment, tout ça. Est-ce que des dates sont avancées pour la reprise des entraînements ou en tout cas du championnat?
Alors déjà, il y a pour l'instant une prolongation du confinement jusqu'au 3 mai. Donc on parle d'une reprise, pas seulement des entraînements, mais de la vie un peu plus normale dans certaines régions à partir du 4 mai. Et on prend ces 4 mai comme date au autour de laquelle il y a les débats en Italie aujourd'hui, parce que on attend de voir, mais ça devrait être les jours donc de reprise des entraînements. Évidemment, pour reprendre les entraînements le 4 mai, il faudra faire avant une sorte de test physique médicaux pour tous les personnages liés au football, pas seulement les joueurs, parce que on parle de faire, comment dire, une mise au vert, une stage des reprises où tous les personnels qui gravitent autour du club, donc les attendants, les préparateurs, les kinés, soient dans cette mise au vert totale. On part de environ 1500 personnes liées au club de Serie A qui doit rester bloqué pour 2 semaines pour être sûr que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de comptage, et en attendant que en 2 semaines, donc à partir du 4 mai, pour 2 semaines, la situation devient vraiment meilleure. Donc oui, on a une date, c'est pas encore officiel parce qu'on attend de voir les prochains décrets du Premier ministre qui va dicter un peu la ligne sur cette phase 2 qui doit être la reprise un peu plus totale, normale de la vie du pays.
Moi j'ai entendu Simone et que ça reprendrait aux alentours du 31 mai.
Il y a deux hypothèses. Pour l'instant, on part du 31 mai pour la reprise avec les matchs en retard. En Italie, on doit jouer encore 12 journées de championnat, plus une journée avec 5 matchs en retard. Il y a une autre hypothèse de commencer un peu plus tôt, c'est-à-dire autour de 27-28 mai, avec les 2 demi-finales retour des Coupes d'Italie. Bien évidemment, on parle de jouer tous les matchs qui restent à huis clos. Il y a aussi une hypothèse qui a été sortie aujourd'hui un peu plus de façon officielle, mais c'était déjà un peu un off, ça circulait, qui arrive d'un personnage de l'Organisation mondiale de la santé qui fait partie du staff technique et médical qui gravite autour du premier ministre italien, donc qui donne les conseils. Et c'est de jouer qu'au sud et centre d'Italie tous les matchs pour éviter toutes les zones.
Là, il y a eu moins de foyers de contamination.
Voilà. La Lombardie, les Piémontes. Les Piémontes, c'est une région extrêmement touchée qui continue à avoir une augmentation en pourcentage plutôt inquiétante des cas. Mais ça reste quand même une région où il y a la Juve et le Torino, la Lombardie, Milan, Inter, Atalanta. Donc, il y a cette hypothèse de faire jouer les matchs au sud, au moins.
Et à huis clos.
Et bien sûr.
Et à huis clos. J'ai vu aussi qu'il y aurait une projection. Pour l'instant, c'est qu'une projection, mais vers ouvrir les tribunes, pas avant le 31 mars 2021.
Oui, c'est pas avant les 2021. Toutes les activités, on parle aussi de certaines activités.
Exactement.
Les boîtes de nuit, les choses de divertissement. Ça doit être pas avant 2021, donc c'est long, il faut terminer une saison, recommencer la suivante.
Je pense que le huis clos, on va en bouffer.
Apparemment, c'est parti comme ça. C'est de source, moi, c'est de source d'équivalent d'OMS, quoi, mais en Italie.
C'est
une lettre officielle.
Par contre, les institutions du foot sont d'accord sur le fait qu'il faut continuer. Les présidents de la fédération continuent à dire on a les temples, les championnats doivent être terminés. Il y a même l'espoir des présidents de la fédération, Gravina, qui a dit de jouer les matchs au nord de déjà mai-juillet, donc soit au début de mai, soit au début de juillet, donc d'avoir quand même des matchs aussi au nord. Par contre, les comités olympiques italiennes et d'autres personnages du monde du sport, pas forcément liés au football, sont un peu plus critiques en disant qu'en Italie, on se préoccupe trop du football et que ça doit être un peu mis au niveau de tous les autres sports. Ça, c'est le président du comité olympique italien, Giovanni Malago, qui l'a dit. La réplique du président de la fédération a été très, très, très dure en disant c'est bien évident que le football n'est pas comparable à tous les autres sports pour les intérêts qu'il y a au niveau médiatique et économique. En Italie, on calcule que les produits football, c'est environ 5 milliards d'euros par an et donc 1,2 milliard d'impôts payés à l'État. C'est quelque chose, ça fait du football une des premières 10 entreprises, on peut dire, italiennes. Donc c'est bien évidemment différent de tous les autres sports.
Ouais, le président de la Fédé italienne, il dit également aujourd'hui que ceux qui sont contre une reprise de la saison n'aiment ni le football ni les Italiens. peut-être un petit peu loin quand même, mais bon.
Ouais, bah, les footballs quand même c'est quelque chose de très culturel, important dans le monde italien. On peut arrêter tout, les volleys arrêter la saison, les baskets arrêter la saison, les rugby aussi si je ne me trompe pas, mais arrêter le football, il faut vraiment des lourdes conséquences, énormes conséquences.
Le débat existe évidemment. Bon, ce qu'il faut aussi parler chez toi Simonet, ce sont les propos de Marco Materazzi. Qui a mal vécu la pré-finale 2006 qu'il a remporté, on le rappelle. Je donne juste une citation, tu peux donner le reste, qui résume bien sa pensée. Zidane a été protégé par les Français, mais j'ai été fracassé par mes propres compatriotes.
Bah oui, alors, bien évidemment, il a dit ça. Il faut rentrer un peu plus dans les débats. Et je peux dire qu'en Italie, on parle aussi beaucoup de ces phrases sur l'effet qu'il a frappé.
Oui, ça on le donnera après. Balotelli, vas-y. On le dira après.
Voilà. Mais pourquoi ça s'est revenu, le fait de Balotelli? Je n'ai pas trop compris le contexte.
Bah, alors, la vérité, c'est que dans ces moments, en Italie, oui, je ne sais pas, en France...
On ressort des histoires, quoi.
Bah, il y a des lives Instagram de très, très haut niveau pour les amoureux joueurs, du football. Joueurs, là, il y a eu des lives Instagram entre Materazzi et Cannavaro. Il y a Totti qui l'a fait avec d'autres joueurs. Il y a Luca Toni, Aquilani... Il y a quelques jours, une vingtaine de minutes magnifiques, peut-être plus, entre Dybala et Del Piero. Donc, c'est-à-dire, si on aime un peu les histoires de football, on peut en trouver des tonnes en ces moments-là, parce que les footballeurs sont en première ligne.
Aussi, ouais.
Bah, il y a eu un délire incroyable de Vieri avec Cassano il y a deux jours, je pense. Extraordinaire. C'était du football, pas du football. Ouais. Et il y a des personnages.
Oui. Vas-y sur Marco, recentrons sur Marco Materazzi.
Oui, voilà. Donc, Materazzi, pour arriver au discours, Materazzi, il dit avoir vécu mal cet après-Coupe du Monde. Il fait aussi des noms en disant qu'à l'époque, l'ancien président de la République, Cossiga, était critique vers lui, même un acteur très connu. En vrai, Marco Materazzi,
parce qu'il avait provoqué, c'est ça? Parce qu'il avait provoqué?
Ben oui, parce qu'il avait provoqué, parce qu'il n'avait pas été célébré un peu comme une des héros de cette Coupe du Monde.
Moi, je trouve ça, je trouve que c'est formidable. Continue, mais je trouve que cet échange est absolument formidable quand on sait ce qui s'est passé en France par rapport à Zidane.
Vas-y, Simon.
En gros, c'est un peu le monde à l'envers.
Oui, c'est ce que dit d'ailleurs Materazzi.
Vas-y, continue, voilà. Simone, excuse-moi.
Non, et Marco Materazzi, c'est bien sûr qu'il a vécu mal parce qu'à niveau populaire surtout, il a jamais été reconnu un peu comme une des grands protagonistes de cette Coupe du Monde. L'effet qu'il avait eu cette rôle des provocateurs envers Zidane quand même a été lui a coûté cher à niveau des sanctions. Il faut bien se souvenir qu'elle était suspendue pour deux matchs. Première fois dans l'histoire de prendre deux matchs pour une provocation et quand l'autre prendre trois matchs. Donc
quelque chose qui est assez basique dans le football finalement, de provoquer l'autre, de parler, c'est un basique.
Voilà. Donc, la presse italienne, quand même, c'était plutôt mis du côté de Materazzi, totalement, sur l'effet de matchs de suspension. Mais à niveau du grand public, à niveau des supporters, Marco Materazzi n'a jamais été vraiment aimé. Tout au contraire, c'était un joueur qui, depuis les débuts des années 2000, c'était un joueur sur lequel on faisait énormément d'ironie. Allez-vous chercher sur Internet toutes les choses qu'il y a sur Materazzi boucher, Macellaio, Materazzi méchant, ses fautes sur Shevchenko dans les derbies. C'était un joueur qui n'était pas du tout aimé par les publics des autres équipes, surtout la Juve, surtout Milan aussi. Donc, il y a plein d'histoires sur Materazzi, sur des fautes sur Inzaghi, sur le fait qu'il était trop rugueux dans ses interventions. Il ne pouvait pas être aimé. Il était aimé par les supporters de l'Inter.
Déjà, à la base, c'était un mec qui n'était pas aimé en Italie, à part par les supporters de l'Inter. Voilà.
Bien sûr.
Simone, il dit, attends, quand même une déclaration de Materazzi, là, il dit « Je suis un patriote ». Il met ça sur le terrain du patriotisme. Et j'ai toujours défendu les couleurs de l'Italie. Leur critique, c'est ce qui m'a fait le plus mal après cette Coupe du Monde. Ces personnes auraient dû embrasser le sol que je foulais, vu que j'ai marqué le but égalisateur.
C'est pas
oui,
faux.
C'est...
Il réclame presque une réhabilitation, ou en tout cas, voilà, une nouvelle popularité.
Après, je pense que lui, Marco, Materazzi, se trompe sur une chose, parce qu'il y a certains personnages du monde du football, il y a eu tout de suite, comme Rivera, Mazzola, mais même Paolo Maldini avait dit que c'était scandaleux les deux journées de suspension qui avaient pris Materazzi. Donc, il y a eu un monde de football qui s'était mobilisé pour Marco Materazzi derrière cette scandale, pour moi, des journées de suspension. Mais c'est vrai que Marco Materazzi, à différence de Totti, Del Piero, de Fabio Grosso, Buffon, n'a jamais été un des héros pour les peuples italiens, ouais, pour moi, de cette Coupe du Monde. Et je pense qu'il regrette ça, en vrai. Ouais. Lui, il met ça sur la, tout dans la poche, on peut dire, de l'affaire Zidane-Materazzi. Mais je pense que même sans cette affaire-là, difficilement, Marco Materazzi aurait été une des grands gagnant de la Coupe du Monde, même si avec deux buts, il a été meilleur buteur avec Luca Toni entre les Italiens. Et en plus, il marque le but en finale et met une des pénalties. Donc, logiquement, il aurait dû être, oui, une des grands héros de cette Coupe du Monde.
Tiens,
il n'a jamais été.
Simone, on a la chance d'avoir avec nous quelqu'un qui a joué, qui était sur le terrain ce jour-là, c'est Willy Sagnol. Willy, ah oui, qu'est-ce que t'en penses, toi, Willy, de cette déclaration de Materazzi? Ou peut-être, effectivement, de l'opposition entre un Zidane plutôt... même clairement défendu après la finale en France.
Défendu une demi-heure après le coup de sifflet final par le président de la République en personne.
Ouais, par Jacques Chirac
défendu
à l'époque.
Par unanimité de la population pour dire qu'il avait bien agi.
Non, attends, alors Daniel, pas unanimité, hein, c'est pas vrai.
C'est une blague ou quoi?
Mais t'avais pas 100% des Français qui disaient bravo Zidane, t'as bien
alors
fait.
Alors attends.
Je sais pas avec qui t'as vu
Nico,
le match.
Nico. Globalement, alors on va dire une majorité.
Globalement, c'est différent. Ouais.
Une majorité. L'ont excusé, le président de la République l'a excusé. Je te rappelle une anecdote que tu as peut-être oubliée parce que t'es plus jeune que moi. Mais l'équipe le lendemain a fait un édito, c'est de Claude Droussan, pour dire que le geste était coupable. Sur le lendemain, intervention de sponsors importants du journal. Le surlendemain, donc plutôt deux jours, pas le lendemain, oui effectivement le surlendemain, édito où finalement on réhabilite Zidane. Voilà ce qui s'est passé quand même en France à ce moment-là. Parce que c'était, en gros, Dieu sur terre dans le pays.
Ouais.
À l'inverse, tu as de l'autre côté, mais après, la popularité des deux joueurs était voilà, pas du tout la même.
Le problème de Materazzi, c'est que c'est pas Zidane à l'époque.
Materazzi, c'est que, en Italie, c'est considéré comme une petite frappe. C'est un mec qui était pas aimé, sauf par, parce que c'est le genre de défenseur un peu rugueux qui est aimé par les mecs dans des supporters du club dans lequel t'es parce que tu te bats pour voilà, le maillot, tu donnes l'image, hein. Mais sinon, il était pas beaucoup aimé. Et donc, lui a peut-être souffert de ça. Mais moi, je te parle de la différence de traitement. Et quand souvent, on dit, soit les Italiens, justement, aiment les mecs rugueux, ou les gars qui provoquent, ou c'est des truqueurs et des tricheurs. Ils ont là la preuve que non seulement c'est pas vrai, mais que deux, il n'y a pas de chauvinisme stupide et exacerbé partout, forcément. Moi, le chauvinisme, c'est un truc que je supporte pas.
Oui, mais t'as raison, Daniel. Mais bon, là on parle de Materazzi. Si Buffon avait fait ça, par exemple, s'il avait fait péter un câble à un
international français. Je suis d'accord.
Mais l'image n'est pas la même. C'est différent, tu vois.
Peut-être que l'image n'aurait pas été la même.
Si ça avait été Cannavaro,
peut-être. Mais n'empêche que c'est quand même une finale de Coupe du Monde et que le mec se fait un peu tailler alors qu'ils sont champions du monde et que de l'autre côté, celui qui fait un geste, qui répond à un geste violent, participe à la défaite de l'équipe et.
Oui, il y avait une approche morale en Italie qui était moins en France à ce moment-là. Willy, vas-y, sur le sujet.
C'est clair, c'est tout a été dit. C'est vrai qu'il y a eu une approche peut-être morale en Italie, et il y a eu une approche, on va dire, politique en France.
Absolument. Il faut oser le dire.
Parce que non, mais c'est pas oser, c'est pas mal de dire ça, parce que Zizou, notamment depuis 98, représentait, je dirais, on va dire la réussite de la mixité,
représentait
vraiment un symbole par rapport à ça.
Ouais, mais donc, c'est là qu'on mélange pas, tout en fait. Si tu dois considérer que tout le monde se vaut et que justement il y a pas de différence et qu'on ne doit pas faire de différence entre les gens et leur origine, ben justement.
Oui, mais là, il y avait en compte. Vas-y Willy, fini.
Non mais là c'est extrêmement compliqué parce que c'est vrai que ça a été politique.
Moi, je
tout simplement
dis,
tout a été orienté
pour ne pas froisser une partie de la population.
Tout a été fait pour que ça se passe parce que une icône tu la remplaces pas. Donc ça a été fait pour ça. Donc dans le même temps, t'étais en train de dire à tous les gamins qui jouent au football de 4, 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, vous inquiétez pas les gars, sur un terrain si vous avez avez un problème, vous pouvez mettre un coup de poing, tout passe. Donc ça a été,
parce
ça a été
derrière, il y a eu des chansons. Vous voilà, vous souvenez des chansons? Ouais. Non, il y a eu des chansons après, pour glorifier le geste.
Après,
il y a eu,
après,
et tous les éducateurs qui venaient, je me souviens quand on en parlait et tout, les éducateurs venaient dire, mais vous vous rendez pas compte de ce qui s'est passé. Il y a des gamins qui mettent des coups de boule, qui disent que si on insulte ta mère ou ta sœur ou je ne sais quoi, tu dois répondre par la violence. Mais on a oublié tout ça parce que le temps passe et on oublie.
Mais parce que c'est voilà, je pense que sincèrement, hein, je pense que ça serait aujourd'hui, ça se passerait aujourd'hui, 14 ans plus tard. Je ouais, pense que ça serait si ça serait différent parce que aujourd'hui t'as des dynamiques différentes. Aujourd'hui c'est plus les aujourd'hui c'est les réseaux sociaux entre guillemets qui décident de plein de choses. Et les réseaux sociaux.
Non mais si les, c'est pas non, mais les réseaux sociaux. Messi est un joueur à lambda qui vaut rien au niveau médiatique, mais en rapport à lui, hein, et Materazzi volait quelque chose, mais pas rien en rapport à Zidane, ce serait la même chose. Ce serait Messi sauvé par l'opinion publique et les joueurs coupables.
Ouais, mais l'opinion publique, elle est versatile. Et je pense que, voilà, je sais pas si aujourd'hui ça serait la même chose. Après, pour en revenir au débat, parce que c'est le débat de Materazzi qui nous intéresse. Que Materazzi, alors c'est très simple, il a insulté Zidane, ce qu'il lui a dit, j'en sais rien. Mais je pense que à peu près dans chaque match, il y a à peu près 500 insultes qui fusent par match.
Bien sûr.
Mais la chose que je peux te demander
aujourd'hui, d'un côté, je comprends pas les Italiens qui aient reproché à Materazzi d'avoir insulté quelqu'un d'autre et de l'avoir provoqué de cette sorte, parce que la provocation, elle a toujours fait partie du jeu. Aujourd'hui, regarde, quand tu sais lire un petit peu sur les lèvres ou quand tu arrives un petit peu à deviner.
Mais tu vois plus les mecs qui mettent la main devant la bouche.
Oui, non, mais, ouais, mais t'en vois encore. Ou ce que, t'as plein de choses comme ça qui se disent sur un terrain de football. Moi, alors, d'un côté, ça me fait de la peine que Materazzi s'est senti un petit peu rejeté ou
du moins critiqué,
mais,
quoi.
Mais ouais. Voilà, mais faut qu'il fasse une
autocritique.
Il faut peut-être pour lui de le voir d'une façon différente. C'est, je pense que parce que c'était un joueur moyen, c'est un joueur moyen, Materazzi, parce que c'était un joueur moyen qui a réussi un truc.
Très bon sur cette Coupe du Monde.
Qui a été extraordinaire dans cette Coupe du Monde, qui a mis un but, qui en plus, par un biais différent, a fait expulser le meilleur joueur adverse. Lui, il s'est peut-être à ce moment-là qu'il a attendu, il s'est dit, c'est là où je dois aller au statut de star. Et justement, c'est se tromper. Et t'as plein de joueurs, tu sais que t'as plein de joueurs de France 98, enfin de la génération, pardon, 98, qui aussi pendant des années, ont traîné une forme de spleen, parce qu'ils n'avaient pas compris pourquoi il y avait d'abord tout en haut de la pyramide, il y avait Zidane. Après, t'avais deux étages avec Barthez et Petit. Après, t'avais un troisième étage avec 5-6 mecs. Après, t'avais un quatrième étage avec 5-6 mecs aussi. Puis après, un dernier étage. Et t'as des mecs qui étaient à l'étage 3, ils ne comprenaient pas pourquoi ils étaient à l'étage 2. Des mecs qui étaient à l'étage 2, ils ne comprenaient pas pourquoi ils étaient à l'étage 1. Et en fait, c'est exactement la même chose. C'est, je pense qu'il a espéré à ce moment-là peut-être changer de statut dans l'esprit des gens ou dans l'opinion publique et peut-être même au niveau mondial. Il a espéré ça. C'est pas venu. Et je pense que depuis, il l'a sur les épaules. Et c'est un poids qu'il a sur ses épaules. Après, d'un autre côté, je vais pas non plus chercher à être triste pour lui, parce que sur un terrain, c'est vrai, c'était plus un boucher qu'un joueur de foot, parce que des joueurs, il en a découpé un paquet.
Il découpait, mais paradoxalement, c'était un joueur très technique.
Ouais, technique ballon arrêté.
Les gars, il y a Quentin qui a venu au 32-16 qui nous appelle pour la première fois l'after, son premier passage, qui voulait parler de ça justement. Salut Quentin.
Salut à tous, bonsoir, ça va?
Bienvenue Quentin.
Ça va. Je voulais revenir donc sur le sujet de Materazzi. J'étais assez d'accord avec Woody, parce que moi en 2006, j'ai 10 ans, et ça reste encore mon pire souvenir, on va dire, en termes de foot. Et en fait, plus les années passent et plus je me suis dit, en fait, ce mec en Italie devrait être considéré comme un héros, parce que je pense que Daniel va s'en souvenir quand il s'est écharpé un peu avec Fred Hamel à propos de Sergio Ramos sur ça là. Et je pense que Materazzi sur l'action de Zidane, c'est un peu la même chose. En fait, il l'insulte, mais je pense pas qu'il pense que Zidane va réagir de cette manière-là, en fait.
Tu veux dire, tu penses qu'il faut des joueurs comme ça pour aller au bout d'une compétition?
Ouais, moi, c'est, je pense que des joueurs comme ça, ouais, ça peut changer le cours d'un match. Et justement, je voudrais savoir ce que vous en pensez, parce que est-ce que, justement, en équipe de France, par certains moments, on n'a pas manqué un peu de joueurs comme ça, un peu de vif, un peu de garde, pour peut-être changer le cours d'un match?
Bon, l'histoire, c'est qu'on a gagné la Coupe du Monde, même si on n'avait pas forcément ça.
À la seule différence pour Materazzi, c'est qu'il a déjà cette... Simone, elle a dit, il a déjà cette image de boucher, de tout ça. Il aurait fait, et voilà, ça aurait été un autre joueur qui aurait fait ça en faisant, sans avoir cette image de boucher, un autre joueur de l'équipe italienne, et qui aurait marqué le but derrière, et qui aurait aussi marqué son penalty, celui-là aurait été élevé à l'étage de star. Mais comme c'est Materazzi qui a cette image de boucher, et que ça ne plaît pas aux Italiens, cette image de boucher, eh ben ils ont pas pu, ça lui a desservi. En fin de compte, c'est sa carrière. C'est sa carrière qui lui a desservi sur ce coup-là, pour pas être élevé à l'image de star.
Ça raconte plus la popularité d'un homme que la mentalité d'un pays. Bon, ça doit jouer également aussi, mais là, en l'occurrence, Materazzi n'était pas aimé, populaire. Il pouvait pas être réhabilité par ça.
Par l'Inter, il était adoré. Les supporters de l'Inter,
oui, par l'Inter,
quand même un héros. Mais après, il avait des comptes ouvertes avec les joueurs de la Juve sur les terrains, les joueurs du Milan. Oui. Après, comme j'ai dit, quand Paolo Maldini, c'est les premiers qui te défendent après la suspension de deux matchs, ça veut dire que dans le monde du football, il y avait quand même un certain respect pour Materazzi.
Mais tu vois,
Materazzi,
par exemple, contre-exemple,
en Italie,
Ribéry.
La question que je voulais demander à Willy, qu'est-ce que les joueurs considéraient de Materazzi, qu'est-ce que pensait de Materazzi? Un bon joueur, un nul, c'est
non, qui Materazzi, il était pas, non, une Italie, non, non.
Des grandes stars, parce que c'était une Italie des grandes stars, et Materazzi, c'était les remplaçants de Nesta qui se blessent. Et donc c'est lui qui rentre en jeu et finit la Coupe du Monde avec un carton rouge face à l'Australie, souvenez-vous, parce que lui c'est les joueurs face à l'Australie aussi.
Quand tu joues au plus haut niveau, je te parle vraiment le plus haut niveau, donc le haut de la Champions League, les derniers matchs de Coupe du Monde, quand tu rencontres une équipe, tu ne te dis pas qu'un joueur en face est nul. Jamais. Quand tu regardes par exemple un Materazzi, le premier adjectif que va avoir un joueur de foot quand il va regarder Materazzi, il va dire « Oh putain, lui il est solide ». Voilà. Il va pas dire oh, « C'est un boucher, c'est un découpeur, il est nul, il est pas bon, il est pas technique ». Non, il va d'abord dire « Oh, lui il est solide ». Donc voilà. C'est l'image qu'avait Materazzi. Pour moi, en tant que joueur, et pourtant j'avais déjà joué contre lui avant cette Coupe du Monde, j'avais joué via des coupes dans des coupes d'Europe contre lui. J'avais pas l'image d'un mec mal aimé ou d'un. Moi, c'est un mec solide. Voilà, c'est un gaillard, c'est un gaucher derrière. Il rentre, comme on disait, il met des coups de chiche, il va au duel et puis voilà quoi. Tu te poses pas forcément de
questions. Parce que tu sais que t'as besoin de joueurs comme ça dans une équipe.
Mais tiens, tu vas nous dire, Lionel, c'est un inconnu. En équipe de France, Willy également, justement, puisque Quentin disait qu'on en manquait peut-être en équipe de France, en tout cas sur les 20 dernières années. Merci Quentin, bravo.
Nico, est-ce que je peux faire
bien sûr, vas-y.
Je voulais faire une petite dédicace donc à la brigade du Ponche et en plus particulièrement à Jory qui est aux urgences, enfin, qui travaille aux urgences à Macon, donc lui faire un petit coucou.
Ça marche, mais c'est fait. Merci Quentin, tu reviens dans l'after, bien sûr. Simonet, tu restes Quentin. Avec nous, on est là dans un instant. On va évoquer également la décla de Materazzi sur Mario Balotelli. Moi, elle m'a fait rire. À tout de suite.